La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Qu'est-ce au juste qu'un vrai médicament ? Pour répondre à cette question, sans doute convient-il d'abord de renverser la question, en se demandant ce que peut bien être un faux médicament. L'enquête menée en Inde et au Kenya par Mathieu Kay permet d'apporter de précieux éléments de réponse qui renvoient notamment au rôle décisif des grandes firmes pharmaceutiques et plus globalement à la mondialisation du capitalisme dans la fabrication de la frontière entre vrai et faux médicaments. Mathieu Kay est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Si la première partie de l'émission nous entraînera vers le Kenya et l'Inde, terrain de recherche de Mathieu Kay, on élargira la perspective dans la deuxième partie, une deuxième partie pour laquelle nous rejoindra Christian Lehmann, qui est médecin généraliste, écrivain, essayiste sur ces questions de santé publique. Et on élargira la problématique à la question des vrais et des faux médicaments, plus globalement et pourquoi pas dans la situation française contemporaine aussi. Bonjour Mathieu Kay.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche et de Développement au Kenya actuellement, mais vous avez passé aussi beaucoup de temps en Inde. Et le livre que vous publiez, Imposture pharmaceutique, sous titre Médicaments illicites et lutte pour l'accès à la santé, qui paraît donc à la découverte, est le fruit de ces recherches de terrain. Des recherches qui s'ancrent d'abord dans des débats qui ont été assez vifs et dont nous avons eu, bien entendu, les échos ici. Débats qui se sont tenus il y a maintenant une quinzaine d'années, qui ont commencé à ce moment-là de façon assez spectaculaire sur la question de l'accès aux médicaments. Évidemment, il a été beaucoup question de l'accès aux médicaments contre le VIH, par exemple, avec des mobilisations d'associations de patients. C'est souvent comme ça qu'on en a entendu parler en France, du fait de l'activisme. Mais en fait, ces débats ont eu lieu aussi dans les pays que vous avez étudié. Et dans une perspective qui devient maintenant classique pour un certain type de sociologie des sciences, vous avez décidé de vous intéresser à cette controverse, au fond. C'est ça le point de départ de votre enquête ?
Tout à fait. Alors, je suis actuellement basé en Inde, à l'université Nehru, depuis 4 ans, à la suite d'une série d'expériences de recherche, donc entre l'Inde et le Kenya. À l'origine, je voulais travailler sur cette question du faux médicament et du faux en général dans la santé. Et assez rapidement, je suis tombé sur une controverse, sur un conflit autour des politiques qui étaient censées lutter contre les mauvais médicaments, et plus précisément de la manière dont c'était formulé par ces politiques, contre la contrefaçon pharmaceutique. Et cette controverse, donc en réalité ces lois qui étaient votées, qui étaient mises en application, ont été très contestées. Et la controverse sur laquelle je suis tombé, c'est un conflit qui a commencé au Kenya, mené par des associations de patients, par des organisations non gouvernementales comme MSF ou Health Action International, qui s'opposaient aux réglementations qui étaient censées pourtant protéger les patients. Et à partir de cette interrogation, j'ai commencé à mener mon travail d'enquête pour comprendre pourquoi est-ce que des mouvements de patients s'opposent à des lois qui sont en apparence censées les protéger.
Alors les éléments de réponse, vous les avez trouvés en cartographiant au fond les prises de position des uns et des autres, puisque c'est débats ont eu lieu dans divers endroits, dans divers endroits probablement de manière différente. La question ne se pose pas tout à fait de la même façon au Kenya, en Inde, mais évidemment encore moins si on prend des pays occidentaux. Pourtant, on retrouve un certain nombre de positions et on retrouve surtout des acteurs internationaux. Et l'un des grands mérites de votre livre, c'est que il permet de comprendre et il invite au fond à adopter une perspective globale, sans quoi on s'interdit véritablement de saisir à quoi on a affaire.
Ça, c'est tout l'enjeu méthodologique du livre, je pense. C'était d'arriver à faire tenir à la fois des controverses, des conflits qui sont extrêmement situés. Donc, vous avez mentionné l'Inde, le Kenya. J'ai aussi enquêté sur ce qui s'était passé au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. En Union Européenne, à la même époque, il y avait des conflits. Donc, une série de conflits qui sont, eux, situés. Et en même temps, arriver à comprendre les convergences entre ces conflits et le type de controverses globales que ça forme. Et ça, c'est un enjeu aujourd'hui en sciences sociales d'arriver à faire tenir des types d'enquêtes qui sont à la fois extrêmement situées, mais qui permettent de mettre en perspective des évolutions qui ont à voir avec l'internationalisation ou la transnationalisation ou le global, comme on peut dire parfois.
Alors, d'une certaine façon, il y a une étape intermédiaire dans cette méthode, c'est le face-à-face entre l'Inde et le Kenya, qui sont deux pays qui ont des relations très très anciennes, des relations économiques, sociales, politiques, qu'on retrouve à travers l'enquête que vous avez menée.
Tout à fait. Alors ça, c'est un point qui a pour moi été une découverte de l'enquête. À l'origine, je m'intéressais à ces controverses. Et quand j'ai commencé à regarder un petit peu, à gratter le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, en particulier au Kenya, je me suis aperçu que l'industrie pharmaceutique kényane, elle a été très, très dynamisée par la présence soit de personnes kényanes d'origine indienne ou soit d'indiens qui vivent au Kenya. Et je me suis interrogé sur l'histoire de cette présence qui est liée à la fois à des relations commerciales de très très long terme, de plusieurs siècles au sein de l'océan Indien, et plus récemment, avec l'histoire coloniale, à la présence de travailleurs d'origine sud-asiatique en Afrique de l'Est au tournant du XXe siècle, qui sont restés, qui ont monté des commerces, et notamment dans la pharmacie. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de la pharmacie, c'est qu'aujourd'hui, l'Inde est un acteur de la pharmacie.
Troisième producteur mondial de médicaments.
En volume, oui.
En volume, c'est quand même considérable. Alors, peut-être pour mieux comprendre de quoi il s'agit vraiment, vous pourriez prendre des exemples distincts de faux médicaments. Parce que derrière cette appellation, on trouve des choses extraordinairement différentes. On trouve de la contrefaçon, on trouve du packaging, je sais pas comment on dit, enfin, on trouve des médicaments périmés, enfin, on trouve beaucoup de choses, en fait.
Oui, il me semble que quand on parle de faux médicaments, et là j'essaie d'employer des guillemets à l'oral, il faut voir que on a un double problème qui est celui de la qualification de quoi on parle et celui de la mesure. Combien, quelles quantités sont concernées. Alors, moi, c'est pas du tout mon travail de mesurer et de qualifier. Par contre, je m'intéresse à comment d'autres acteurs ont tenté de le faire. Et je peux prendre un exemple qui est celui d'un rapport de l'OMS qui a été publié l'an dernier, selon lequel un médicament sur 10 en circulation dans les pays en développement est de qualité inférieure ou falsifié. Ce rapport m'intéresse pour deux raisons. La première, c'est comment est-ce que ce chiffre a été produit. Et quand on regarde comment le chiffre a été produit, il s'agit d'une méta-enquête de la part de l'OMS, donc qui a rassemblé une série de 100 publications scientifiques. Il se trouve que ces publications scientifiques, le texte de l'OMS le met en perspective, ont été basées sur des échantillons par commodité. Ça veut dire que les enquêteurs de ces enquêtes se sont dirigés vers des pharmacies, vers des marchés. Ils ont identifié des médicaments qu'ils trouvaient louches. Ils les ont ensuite examinés et ils ont pu décider si ces médicaments étaient de mauvaise qualité ou falsifiés. Donc un premier problème dans le mode de collecte, c'est-à-dire que soit on fait une enquête avec un échantillonnage exhaustif ou le plus aléatoire possible, mais c'est impossible sur un problème de qualité qui est aussi aussi divers et aussi diffus. On n'arrivera pas à obtenir de chiffres. Soit on le fait par commodité, et dans ce cas-là, on va forcément gonfler les chiffres de circulation. Donc premier problème, la mesure. 1 sur 10, c'est déjà une surévaluation au regard du mode de collecte. Le deuxième problème, c'est celui de la qualification. L'OMS dit, les estimations que nous pouvons faire à partir de ces chiffres, c'est 1 sur 10 médicaments falsifiés ou de qualité inférieure, qui sont deux choses très différentes, parce que qualité inférieure, ça peut être des acteurs de tout à fait bonne volonté qui produisent des médicaments mais qui n'arrivent pas à les produire dans des conditions suffisantes pour assurer leur qualité. Quand on parle de médicaments falsifiés, on est sur quelque chose qui peut relever d'une activité criminelle. Donc c'est deux choses très différentes. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces chiffres et les qualifications circulent. Et on a pu voir que dans la presse, l'estimation 1 sur 10 de l'OMS est vite devenue, selon l'OMS, un médicament sur 10 dans les pays en développement est faux. Et c'est là qu'on a une surévaluation absolue d'un problème qui est en réalité beaucoup plus divers. Comme vous le disiez, un médicament, quand on parle de problème de qualité ou d'enregistrement des médicaments, un médicament, il peut être considéré de mauvaise qualité ou de qualité inférieure, soit parce qu'il ne contient pas la bonne quantité de principes actifs, soit parce qu'il est périmé. Des fois, un médicament peut se retrouver, peut être de tout à fait bonne qualité, mais rester trop longtemps sur les étagères de la pharmacie. Il peut y avoir des problèmes d'enregistrement. Le médicament est de bonne qualité, mais il n'a pas été enregistré par les pouvoirs publics. Il peut y avoir des problèmes de la légalité de l'acte de vente, c'est-à-dire que le médicament peut être vendu par un pharmacien qui n'a absolument pas les diplômes, comme ça peut arriver assez fréquemment dans des pays en développement. Donc c'est tout cet ensemble de problèmes qui se retrouve réduit sous la pure notion de faux.
Il peut y avoir des fraudes qui ne sont pas pour autant des contrefaçons. Je citais l'exemple de reconditionnement, par exemple, de médicaments, où des gens, pour ne pas s'embarrasser des questions de date de péremption et remettre sur le marché des médicaments qui devraient être, en théorie, détruits, changent la date. Donc là, il y a fraude sur la date. Pour autant, la composition du médicament n'est pas en question.
Exactement. Ça, il y a eu un cas, donc au Kenya, au tournant des années, je pense, 2011, fin 2011, d'un médicament antirétroviral qui s'est frité. Les infirmières de MSF se sont rendues compte que le médicament s'est frité. Et elles ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un problème de falsification ou de mauvaise qualité. Par précaution, elles ont fait remonter l'information. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en réalité, le médicament avait transité par de multiples fondations et suite à différentes donations, il s'était retrouvé périmé sur des étagères et une fondation assez mal intentionnée, il faut le dire, avait remis sur le marché ce médicament après l'avoir réemballé, donc en le faisant passer pour un médicament non périmé, alors qu'il était périmé.
Mais autre exemple que vous donnez, ce chinois malade qui, pour se soigner et en soigner d'autres et accessoirement faire du business, va importer en Chine des médicaments qui ne sont pas vendus dans le pays où il habite et obtenir des molécules qui ne sont pas distribuées. Donc là, c'est un problème de droit de la propriété intellectuelle, c'est un problème de zonage. Enfin, c'est exactement le même que quand on achète un DVD dans une zone qui n'est pas celle du continent sur lequel on habite, Mathieu Kay.
Tout à fait, sauf que dans ce cas-là, on parle d'un anticancéreux qui est quand même nécessaire à la vie des patients et que dans le cas que vous mentionnez, il se trouve que c'est les patients chinois ont dû faire importer le médicament, la version générique du médicament, dont le brevet était reconnu par les autorités chinoises, ce qui empêchait de faire venir la version générique. Et donc, en faisant des importations illégales de ce médicament, il était passible de la loi, et en même temps, mais il faisait ce qu'il pouvait pour survivre.
Alors au fond, si on reprend cette controverse, on a d'un côté des associations comme des ONG, comme MSF, qui à un moment vont alerter sur les effets d'une législation trop stricte sur les médicaments et sur le fait qu'on ne puisse pas accéder dans certaines parties du monde à des traitements parce qu'ils coûtent trop cher ou parce qu'ils sont tout simplement juridiquement non accessibles. Et puis d'un autre côté, on a l'utilisation par un certain nombre d'autres acteurs de faits divers spectaculaires, la mort par exemple de patients auxquels on a prescrit des médicaments qui étaient dangereux. Et ces acteurs économiques, souvent des laboratoires pharmaceutiques, vont s'appuyer sur ces faits divers pour agiter le chiffon rouge au fond de la sécurité, enfin de la sûreté plus exactement, des médicaments et s'appuyer sur ces cas-là pour demander davantage de contrôle, de règles. Au fond, c'est ça le paysage général du conflit au départ.
Exactement. Je pense qu'en fait, le problème dans ce cas-là est double. C'est-à-dire que d'un côté, on a, comme je le disais précédemment, un problème du faux et de la qualité qui est extrêmement varié et difficile à mesurer. De l'autre côté, on a des conflits de propriété intellectuelle qui sont des conflits commerciaux classiques. Et entre ces deux problèmes, on a des acteurs qui vont essayer d'instrumentaliser la question du faux médicament pour promouvoir leurs intérêts qui sont des intérêts commerciaux. Et donc c'est à partir de là que se déploie la question de la contrefaçon et qui est, on va dire, injecter le problème de la propriété intellectuelle dans un ensemble d'enjeux qui sont en réalité beaucoup plus divers et beaucoup plus complexes.
Alors la première étape de votre travail, ça a consisté à cartographier cette controverse, à rendre compte des arguments des uns et des autres, des positions des uns et des autres sur une map monde aussi à cette échelle-là. Mais dans un deuxième temps, ça vous a invité à aller rencontrer tout un tas de gens qui étaient jusque-là plutôt restés dans l'ombre, qui sont pas ceux qu'on entend prendre part à la controverse, mais qui sont des acteurs économiques ou réglementaires ou politiques très très importants pour comprendre ce à quoi on a affaire. Ça, c'est le cœur de votre enquête, Mathieu Kay. Comment vous avez procédé? Qui vous avez rencontré?
Oui, alors ça, si je peux me permettre un petit point méthodologique, c'est effectivement quelque chose qui est très important par rapport aux études de controverse, c'est qu'on a souvent tendance à s'intéresser seulement aux acteurs qu'on voit dans les médias qui vont faire des déclarations. Il se trouve que ces acteurs, ils permettent de structurer les débats, ils donnent de bonnes indications de l'état des débats, mais en même temps, ils laissent de côté un autre ensemble d'acteurs qui restent silencieux, alors même qu'ils vont jouer un rôle essentiel
dans
les débats.
Là, il y aurait un biais considérable à ne voir que...
Exactement. Et donc, à partir de ça, moi j'ai commencé par mon étude de controverse, et ce qui manquait comme prise de parole dans cette controverse, c'était tous les acteurs de la production, les fabricants de médicaments, qu'ils soient en Inde ou au Kenya, les acteurs de la distribution, ceux qui importent, exportent, vendent des médicaments, et les acteurs de la régulation, ceux qui les contrôlent. Parce qu'en fait, tous ces trois ensembles d'acteurs n'ont pas tellement pris la parole pendant la controverse, qui était surtout menée par des spécialistes de propriété intellectuelle, de l'accès aux médicaments, ou les communicants de la Big Pharma, on va dire. Donc à partir de là, j'ai pris mon sac à dos et je me suis promené en Inde dans les zones industrielles, au Kenya dans les zones industrielles, et je suis allé à la rencontre des fabricants de médicaments pour essayer de comprendre, sans être moi-même pharmacien, comment se mène le business de la fabrication et de la vente de médicaments dans ces pays, en essayant de voir évidemment les différences énormes qu'il peut y avoir quand on parle d'un pays comme l'Inde où on estime parfois le nombre d'unités de production à 20 000 et dans un pays comme le Kenya où on a une quarantaine de firmes. Il faut voir qu'évidemment c'est des degrés de développement de l'industrie qui ont strictement rien à voir.
Alors ça vous permet aussi du coup de réfléchir au-delà des médicaments, aux transformations du capitalisme, à sa mondialisation, à la façon dont elle joue à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle d'une ville comme à celle des relations entre deux pays et plus globalement dans un système multilatéral. Au fond, vous avez mis en évidence à travers cette enquête l'un des aspects aussi des transformations du capitalisme contemporain, qui est le fait de reposer beaucoup ou de faire des marges, de faire de l'argent sur ce qu'on appelle la logistique.
Alors, plus généralement, je pense qu'effectivement, c'est une opposition que j'essaie de montrer. D'un côté, on a un déploiement mondial de la production industrielle de médicaments. Il y a une quarantaine d'années, c'était principalement dans les pays les plus riches que la production se faisait.
Aujourd'hui, ça s'exportait.
Et ça s'exportait dans les pays du Sud. Quand ça s'exportait, parce qu'il y avait un certain nombre de pays qui, de toute façon, avaient très peu accès aux médicaments dans les années 70-80.
Aujourd'hui, c'est les formules qu'on exporte.
De plus en plus, tout à fait. Mais aujourd'hui, surtout, on a des producteurs de médicaments partout dans le monde. Dans à peu près tous les pays du monde, il y a de la production. Et avec ça, il y a eu un accroissement assez naturel des opérations de distribution. Parce que maintenant, ça circule dans tous les sens. Comme vous le disiez juste à l'instant, les principes actifs sont exportés, des médicaments, produits finis sont exportés ou importés. Donc on a de la distribution partout. Et c'est dans ce site-là de la distribution que se joue la majorité des profits quand on parle du commerce des médicaments génériques. Parce que produire des médicaments génériques, en général, on fait une marge très faible dessus quand on est un fabricant. Alors que quand on est assez malin pour faire en tant que distributeur, on peut faire des marges très importantes. Il se trouve que le prix du médicament au Kenya, comme je le mentionne dans le livre, 70% du prix, en fait, est déterminé par les conditions de transport et de distribution. 30% seulement sont liés à la marge que prend le fabricant. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage de la production partout. Mais en même temps, du profit dans les opérations de distribution et dans ce que moi j'appelle la logistique et les régimes logistiques, qui est pas seulement le transport, mais qui est l'ensemble des opérations qui vont permettre de faire circuler les médicaments.
Alors il y a une autre chose extrêmement importante que vous soulignez aussi, c'est le passage progressif d'un régime, on va dire, de sûreté, où ce qui comptait principalement, c'était le fait que ces médicaments mis sur le marché, pris par des patients, ne soient pas dangereux, tout simplement, c'est la priorité des priorités, à un autre type de régime, une autre préoccupation, qui est la sécurité. Et là, c'est totalement différent, c'est un prisme beaucoup plus policier, douanier, où on va s'intéresser à la contrefaçon, on va essayer de protéger en priorité, non pas nécessairement la santé de ceux qui vont consommer ces médicaments, mais plutôt le respect de la loi et donc les droits intellectuels de ceux qui ont inventé ces principes actifs, ces médicaments. Là, c'est opéré un déplacement, ou plutôt il y a une tension entre les deux qui évidemment persiste, mais il y a vraiment un déplacement au fil des ans que vous observez très bien, Mathieu Kay.
Oui, alors ce terme de sécurisation, je pense qu'il faut plutôt le voir comme un phénomène cyclique, c'est-à-dire que dans les années 60, 70 aux États-Unis, les mêmes questions de propriété intellectuelle exactement se posaient, mais par contre, elles se posent de manière plus ou moins vive selon les périodes. Et il me semble que depuis le tournant, on va dire quelque chose qui se construit à partir des années 80 sous l'influence des lobbies pharmaceutiques, au moment de la renégociation des accords de la propriété intellectuelle internationale, quelque chose qui se construit au cours des années 80 arrive sur la scène internationale sous la forme de cette sécurisation. Et c'est un terme peut-être un tout petit peu parapluie, on va dire, qui rassemble à la fois les enjeux liés au partenariat public-privé, aux interventions croissantes de la police dans les questions de la protection des intérêts des patients, à l'importance accrue donnée à la propriété intellectuelle et au rôle des technologies. C'est-à-dire que de plus en plus, on délègue à des technologies la fonction d'analyser la légalité des médicaments et on s'intéresse moins à la mise en place des ressources humaines qui sont nécessaires pour exercer le contrôle. C'est-à-dire que quand vous voulez contrôler des médicaments, vous avez tout simplement besoin d'inspecteurs, de pharmaciens qui vont analyser les médicaments. Et en fait, dans le mouvement que j'observe de sécurisation, c'est pas tellement la question des ressources humaines qui est posée, mais plutôt celle du rôle de la police et des technologies, pour résumer brièvement.
Alors, il y a des acteurs dont on a assez peu parlé depuis le début de l'émission, ce sont les patients. Pourtant, ils ont, au cours de ces années-là, ils se sont de plus en plus organisés sous forme d'associations. On sait que c'est un phénomène qui date de la fin du XXe siècle, mais qui est monté en puissance, qui est né dans des pays du Nord, mais qui, j'imagine, aussi s'est développé un peu dans les pays du Sud. Quel rôle ont-elles joué, ces associations de patients ?
Un rôle tout à fait essentiel dans la mise en perspective du problème et des enjeux que soulevaient les politiques anti-contrefaçon. On peut dire que dans les années 90, les mouvements de patients, ils sont aussi extrêmement puissants, disons dynamiques, face aux nouvelles politiques de propriété intellectuelle qui se mettent en place avec l'OMC. Et au tournant des années 2000, il y a le procès célèbre de l'Afrique du Sud, donc le gouvernement sud-africain étant poursuivi par des firmes pharmaceutiques, parce que justement le gouvernement sud-africain avait décidé de mettre en application les flexibilités du droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire pour accéder aux médicaments plus simplement pour lutter contre l'épidémie de VIH, ils avaient décidé d'importer, voire de fabriquer sur place des médicaments, et la Big Pharma s'y opposait. À ce moment-là, les mouvements de patients, ils n'étaient pas seulement dans les pays du Nord, ils étaient complètement transnationaux et très puissants et très dynamiques dans les pays du Sud. Et en fait, tout ce savoir qui a été fabriqué, qui a été bâti à la fin des années 90, il a demeuré. Et aujourd'hui, on a des alliances entre des associations de personnes séropositives, des groupes d'avocats, des organisations internationales non gouvernementales de type MSF qui ont des collaborations qui leur permettent de pousser les intérêts et surtout de se battre contre les revendications pressantes autour de la propriété intellectuelle des grosses firmes pharmaceutiques.
Alors il y a d'autres acteurs dont on n'a pas parlé, au fond, vraiment, ce sont les médecins. En tous les cas, pas les médecins qui travaillent dans les laboratoires pharmaceutiques, pas ceux qui sont peut-être amenés à travailler dans des institutions de contrôle et de régulation, parce que j'imagine qu'il y en a, mais ceux qui sont vraiment encore médecins face à des patients qui doivent prendre en charge et qui se posent des questions. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, à n'en pas douter, avec Christian Lehmann, mais quelle place ils occupent? Comment vous les avez-vous perçus dans cette enquête, Mathieu Kay, sur ces pays, en Inde, au Kenya, sur lesquels vous avez travaillé?
Alors, moi, j'ai principalement travaillé sur les médecins en Inde et dans des états les plus pauvres de l'Inde. Et en fait, les médecins, il faut bien le dire, ils sont relativement absents dans ce genre de contexte. Alors, c'est pas le cas partout, mais quand on regarde les zones rurales en Inde, les médecins, en fait, ils sont pas là. Et ce qui fait office de médecin, ce sont des personnes qui sont formées sur le tas, et qui se comportent, disons, qui font avec les trous du système de santé. Hein. Je dis pas, le système de santé est très pauvre en médecins. Du coup, on a un rééquilibrage qui se fait comme on peut, c'est-à-dire on bricole et on a des médecins de village qui vont essayer d'assurer tant bien que mal l'accès aux soins.
Alors on va voir tout de suite comment on peut faire quand on est médecin et qu'on se pose la question de savoir si les médicaments qu'on prescrit sont vrais, sont faux, dans quelle mesure on peut le savoir, quelles questions, quels doutes on peut avoir. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission avec Christian Lehmann, mais on écoute d'abord un extrait du nouvel album de Jaco Gardner, un album titré Somnium. Ce titre Past Navigator, une sorte de petite symphonie pop atmosphérique.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Imposture pharmaceutique, c'est le titre du livre de Mathieu Kay qui paraît aux éditions La Découverte dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond, médicaments illicites et lutte pour l'accès à la santé. La question est de savoir ce que c'est qu'un médicament qui serait faux ou un médicament qui est vrai. Voilà une question qui se pose de manière très pratique, j'imagine, quand on est médecin généraliste dans un contexte où un certain nombre d'affaires sont venues provoquer le trouble à propos, par exemple, souvenez-vous, du Mediator, du Vioxx, de beaucoup de d'affaires récentes. Et donc, pour en parler avec Mathieu Kay, Christian Lehmann, médecin généraliste, écrivain, à qui on doit, par exemple, Patient, si vous saviez, un livre sur les questions de santé publique et de pratiques médicales. Comment vous appréhendez, Christian Lehmann, cette question au plus pratique?
Je vais commencer par faire ce que doit faire chaque membre d'une profession médicale quand il parle dans la presse écrite ou audiovisuelle, et que font très peu d'entre eux. Je n'ai aucun lien avec des établissements ou des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé. Si on entendait ça à chaque fois, on saurait déjà d'où parlent certains de mes confrères que la revue Prescrire appelle des dealers d'opinion et pas des leaders d'opinion, parce qu'en fait, plutôt qu'une blouse, ils devraient avoir une petite sponsorisation pour savoir d'où ils viennent. Une fois que j'ai dit ça, il y a quelque chose auquel me fait penser ce que disait Mathieu Kay, c'est une affaire très récente qui est celle du Valsartan. Le Valsartan, c'est un antihypertenseur qui est très prescrit. Et là, brusquement, on voit apparaître dans la presse grand public des entrefilés alarmants disant que il faut pas prescrire de Valsartan parce qu'il y a certaines molécules de Valsartan qui sont impropres à la consommation. On reçoit une espèce de fax embrouillé de l'Agence nationale du médicament en disant, il faut pas discontinuer le médicament, mais il faut faire attention, on va faire la liste des bons Valsartan et des mauvais Valsartan. Donc ça dure quand même comme ça pendant 15 jours, 3 semaines de flou total. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que le Valsartan est devenu un médicament génériquable, qu'il est donc fabriqué dans différents pays, dont la Chine, et que probablement le fabricant du produit Princeps a fait des études...
Le produit original
a fait des études sur certains des génériques et s'est rendu compte qu'il y aurait une impureté. Et à partir de ce moment-là, la question est ouverte. Est-ce qu'il y a vraiment certaines usines en Chine qui produisent des génériques de mauvaise qualité? Et à ce moment-là, le laboratoire du produit de base, du produit original, œuvre pour la santé publique et les patients en les protégeant? Ou est-ce qu'en fait, ce qu'ils ont trouvé,
ils essayent de protéger sa marque,
c'est une trace qui n'a pas d'intérêt, et on n'en sait strictement rien? Et donc, on a une liste qui paraît, par exemple, dans Le Parisien. Voici les valsartans qui posent pas problème, peut-être celui de tel labo génériqueur, de tel autre jabrieux. Voilà ceux qui posent problème. Enfin, vous imaginez avec le nombre de médicaments qu'il y a dans le Vidal et tous ces médicaments, beaucoup d'entre eux sont génériqués. Vous imaginez un généraliste qui s'arrache les cheveux en sachant si celui-là, on peut lui faire confiance, pas confiance. D'autant que pour l'alerter, il n'a qu'une agence nationale du médicament qui réagit a posteriori et dont on peut pas dire que la pertinence et l'honnêteté étaient les valeurs capitales ces dernières années. Donc, mon souci, parce que je suis dans un pays où j'ai accès à des médicaments facilement, c'est pas tant de me dire il vaut mieux que je donne un médicament de qualité peut-être inférieur, mais au moins mon patient y a droit, c'est de savoir, je sais pas comment dire, c'est plus large, d'où on me ment. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire des liens d'intérêt au départ. Il faut rebâtir, pour rebâtir une confiance, il faut commencer par se poser la question, la personne qui me parle de ceci ou de cela, quel est son lien d'intérêt avec les gens qui le vendent? C'est quand même super basique, mais il aura fallu 20 ou 25 ans pour que les médecins commencent à s'y mettre.
En gros, ce qu'est en train de dire Christian Lehmann, Mathieu Kay, c'est que un médecin généraliste devrait mener une enquête sociologique avant de prescrire pour savoir au fond à quoi il a affaire, ce qui est évidemment complètement impossible compte tenu du temps dont il dispose, puis peut-être des compétences aussi après tout, mais surtout évidemment du temps. C'est-à-dire que donc il y a un souci d'information, de confiance, de...
Bah, c'est ce que leur prescrivent les sociologues en même temps, de faire des enquêtes sociologiques, je pense. Mais à mon avis, enfin, pour pousser un petit peu le raisonnement, je suis à la fois complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et en même temps, il me semble que moi, j'aurais envie de pousser le doute encore plus loin. C'est-à-dire que d'où on me ment, d'un côté, la question des liens d'intérêt, elle est évidemment fondamentale à mettre en évidence. Et de l'autre, il me semble que ces relations d'intérêt, elles évoluent sans cesse. Et l'exemple que je peux mentionner, c'est celui des études de bioéquivalence, donc qui sont les études nécessaires pour mettre sur le marché des génériques aujourd'hui, et qui en général, aujourd'hui, tendent à structurer le marché des génériques parce qu'elles permettent de montrer que ce générique-là n'est globalement pas différent du médicament, donc Princeps, et qu'on peut le vendre. À l'origine, les études de bioéquivalence qu'a montré l'historien Jeremy Green, c'est que c'était précisément des études qui étaient censées montrer la différence entre les médicaments génériques et les médicaments Princeps, et c'était des études qui étaient poussées par les firmes des médicaments Princeps pour contrer leurs concurrents. Et donc, ce qu'on voit dans ce cas-là, c'est que il y a un outil qui est un outil qui permet de lutter contre ses concurrents, qui s'est finalement, avec le temps,
un outil réglementaire qui peut être utilisé dans un sens ou dans l'autre.
Exactement.
Selon les intérêts des acteurs qui s'en saisissent au fond.
Sauf que d'une molécule à l'autre, le fait d'avoir une bioéquivalence à 80% avec 20% de trucs pour un produit, par exemple, comme une hormone thyroïdienne ou un Digitalix, ça va avoir des conséquences majeures. Et la question qui se pose même, mais là, il est trop tard pour la poser, c'est quoi cette politique du générique? En fait, le Valsartan, c'est du Cosar. Pendant, je sais pas, 15 ans, 20 ans, il est le seul sur le marché. Il devient généricable. L'État pourrait dire, à partir d'aujourd'hui, toute molécule de Valsartan, tout comprimé de 100 mg, sera remboursé, disons, 0,60 €. Et ensuite, les gens s'alignent ou pas?
Si les gens, c'est-à-dire ceux qui produisent les médicaments.
Oui, voilà. C'est-à-dire que le laboratoire Princeps a intérêt à se mettre à 0,60 pour éviter que des génériqueurs viennent. Et on sera plus dans cette espèce de foutoir où chacun fait son Valsartan. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la puissance publique va rembourser 65% de tout comprimé, qu'il vaille 0,60, 0,56, 1,35 €, 1,25 €, c'est complètement débile. Si on avait un seul prix et qu'on disait, OK, vous avez trouvé ce médicament, pendant 20 ans, vous donnez votre prix, on s'entend, etc. Et au bout de 20 ans, on considère que vous avez fait vos marges, vous baissez et on vous le laisse. Et tout le monde s'aligne. Quel génériqueur aura besoin dans le pays même de faire le médicament à un autre prix? Aucun, mais ça donne la possibilité dans d'autres pays d'avoir une fabrication de ce médicament qui sort de cette propriété industrielle, et avec un arrangement dans le pays même. Mais on diminuerait, ce que vous avez dit, les transports, cette espèce de logistique, c'est-à-dire au-delà de la création du produit et de son utilisation, si possible raisonnée par un patient qui en a besoin, on a construit comme ça un gigantesque business qui est devenu de plus en plus instable au fur et à mesure qu'il suffit qu'il y ait une fabrication quelque part ou une agence de régulation qui fonctionne pas pour que ça se plante. On le voit sur autre chose, je vais faire juste une petite incise sur les dispositifs médicaux récemment. On se rend compte que les dispositifs médicaux, les stents qu'on met dans vos artères, sont Il n'y a pas d'agence pour vérifier en faisant des enquêtes en double aveugle l'efficacité du produit. On a des États qui se défaussent sur des agences de notification, qui sont des agences privées, qui sont payées par les industriels et qui disent « Ok, le produit a l'air d'être safe et il correspond bien à sa notice. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce que sur le long terme il va l'être ? On n'en sait rien. » Donc, le souci... Plus globalement, c'est que dans un monde de globalisation, on a privilégié ce qui fait le marché à ce qui fait la santé. À chaque fois qu'il y aurait une tentative de réflexion en disant on pourrait éventuellement donner un prix au générique qui soit le même partout, les gens hurlent qu'on est dans un système bolchevique et qu'on empêche la libre entreprise.
Mathieu Kay, Christian Lehmann a ajouté une dimension aussi qui est celle du remboursement des médicaments et donc ça c'est pas forcément une situation qui est entrée en jeu mais dans un pays comme la France ça joue un rôle absolument considérable.
Oui, et en même temps, oui, tout à fait. Mais je pense que ce qui est en jeu là, c'est exactement, alors l'interdépendance, mais à différents niveaux, l'interdépendance entre des pays qui produisent, des pays qui distribuent. Et à ce titre, le cas de l'Inde est aussi intéressant à mentionner parce que, en ce moment, en Inde, il y a un souci de la part des pouvoirs publics en ce qui concerne la dépendance face à la Chine en principe actif. C'est-à-dire que même l'Inde, qui est censée être un des pays au monde qui produit le plus de médicaments, se pose la question des formes d'interdépendance qu'elle a construites avec d'autres pays. Et le deuxième type d'interdépendance, c'est évidemment celui des pouvoirs publics et des firmes de fabrication locales ou internationales, et donc qui est au fondement de la manière dont se négocient les prix.
Christian Lehmann, vous faites partie de ces médecins qui, il y a quelques mois, ont signé une pétition qui est apparue dans le Figaro, Fake Med, qui s'en prenait précisément au remboursement de faux médicaments. C'est-à-dire de médicaments dont jamais aucune étude scientifique n'a montré l'efficacité, l'homéopathie. Là, il y a des intérêts en jeu de l'industrie pharmaceutique, et notamment d'un gros acteur pharmaceutique.
Oui, ce gros acteur, laboratoire Boiron, pour pas le nommer, a l'intelligence de se faire passer pour une bienveillante AMAP vegan quelque part en Corée. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais s'ils ont signé ça, c'est qu'ils sont payés par l'industrie pharmaceutique. » Mais Boiron, tu crois qu'il fait quoi ? Du mécénat. Donc on a un laboratoire qui donne des granules de sucre avec dedans des produits extraordinaires, du blaireau écrasé, de la lumière de trou noir. Il y a quand même des produits à base de lumière de trou noir. Il y a des produits à base de mur de Berlin. Si vous avez une phobie sociale, si vous avez un peu de mal, les fêtes de fin d'année...
C'est pas des blagues.
Mais c'est pas des blagues.
Et c'est remboursé par la sécurité sociale.
Oui, il y a du mur de Berlin, il y a du blaireau écrasé, etc. Donc, ce qui se passe, les gens disent, mais pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Mais on ne demande pas à l'enfant qui voit passer le cortège et qui dit, mais l'empereur est nu. On ne lui dit pas, mais pourquoi tu demandes pourquoi l'empereur est nu? Il faudrait plutôt demander à tous les autres qui étaient là en train de le voir passer à poil, pourquoi ils disaient, mais il est formidable, il est extraordinaire et tout. Alors, pendant un moment, il y a eu, sociologiquement, c'est super intéressant parce que ces gens qui ont fait ça, c'était des médecins isolés qui n'étaient pas en lien avec l'industrie. Et immédiatement, il y a eu une levée de bouclier, y compris au sein des médias, en disant « mais en fait, ces gens n'ont pas à nous apprendre ». Alors qu'en fait, ce qu'on dit simplement, c'est que l'article 39 du Code de déontologie médicale dit qu'on doit s'imposer de ne prescrire et distribuer que des traitements éprouvés et proscrivent l'usage de remèdes secrets ou ne mentionnant pas clairement les substances qu'ils contiennent. Enfin, on demande simplement à la puissance publique, ordre des médecins, Haute Autorité de Santé, Agence Nationale du Médicament, ministère, excusez-moi, de sortir les pouces du cul. Et donc on a été traité de sectaires, de trucs, jusqu'à ce qu'il y a la semaine dernière, 131 académiciens de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences, parlant en leur propre nom et pas pour l'Académie, ont dit exactement la même chose que nous, en disant, bon, maintenant il va falloir que ça s'arrête, cette histoire. Mais au-delà de ces médicaments-là, parce qu'on nous fait reproche de dire « oui, mais alors vous êtes contre l'homéopathie vous êtes... ». Il y a dans la médecine conventionnelle, il y a des médicaments qui ont été de faux médicaments, et pourtant ils ont suivi complètement la fabrication. Je rappellerai rapidement l'histoire du Vioxx. Le Vioxx, c'est un médicament contre les rhumatismes, qui est promu bien avant sa sortie comme un médicament avec une excellente tolérance digestive, ce qui va faire que les patients qui prennent ces médicaments parce qu'ils ont des douleurs d'arthrose vont pas se retrouver avec des ulcères. Donc, Il y a une montée en puissance dans les journaux. Je me souviens que dans le Figaro magazine, il y avait des 4-5 pages. Bientôt, ce médicament arrive. En mai 99, il a son autorisation de mise sur le marché aux USA. En novembre 99, il a son autorisation de mise sur le marché en France. Mais le prix qui est demandé aux patients est très élevé. À l'époque, c'est 10 francs le comprimé, quand la dose quotidienne d'un anti-inflammatoire, c'est à peu près 2 francs. Que fait le laboratoire? Il le donne aux pharmacies des hôpitaux à 1 centime de comprimé, soit 1000 fois moins cher que le prix en ville. Les patients en ont gratuitement quasiment à l'hosto. Ils sortent avec une ordonnance que, malheureusement, souvent, le médecin généraliste aura du mal à changer parce qu'elle a été faite par un prof d'université. Et, en fait, il y a une pression sur le gouvernement. La France ne peut pas être un des pays où on ne rembourse pas une telle avancée. Donc, on la rembourse en France, alors même que dès le départ en 99 et en 2000, il y a des études qui commencent à sortir comme quoi il y a plus de morts cardiaques sous ce produit. Il y a tout un tas de dealers d'opinion qui passent dans les médias en disant « mais c'est pas parce que le Vioxx est dangereux, c'est parce que le produit contre lequel il a été mis en truc a des propriétés cardioprotectrices ». Ça tombe du ciel, mais ça tient comme ça pendant encore 2-3 ans. Au salon du MEDEC, en présence de toutes les gloires françaises, le président du Conseil de l'Ordre, le président du Conseil médical du MEDEC, le président de la CSMF, enfin tous ces gens qui vivent entre eux, le médicament reçoit le prix du médicament de l'année, la France en rembourse 116 millions par an, et du jour au lendemain, en 2004, il est arrêté parce que les études de départ étaient avérées. Et ce qui est extraordinaire, ça que j'adore, c'est qu'en fait, personne n'a prescrit du Vioxx. Si vous demandez aujourd'hui, il n'y a personne qui vous dira qu'il a prescrit du Vioxx. C'est la faute de personne.
Et Il y a une amnésie.
Et vous vous souviendrez qu'en 2011, profitant de l'affaire du Mediator, parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, se battre contre Big Pharma et lancer ce genre d'alerte dans les médias, c'était quand même chaud patate, comme on dit. Nous avons fait un article ensemble dans Mediapart, nous avons parlé des anti-Alzheimer, dont il commençait à sortir que, en fait, ça ne servait strictement à rien et que ça pouvait donner des accidents vasculaires cérébraux. Et je vous avais dit, parce que je suis quand même un grand optimiste devant l'éternel, le prochain scandale des médicaments sera les anti-Alzheimer. Mais non! Ça a duré ce que ça a duré. Ils ont réussi à gratter encore 7 ans à vendre très cher des produits qui sont inutiles et dangereux. Quand ça a été retiré du remboursement, il y a bien quelques personnes qui ont râlé en disant que ça allait faire tomber une filière, la filière gériatrique. Mais au final, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de problème. Et on trouve deux types de médecins, ceux à qui on en parle qui disent « Mais écoute, c'était cousu de fil blanc si on lisait les études dès le départ. » Ben oui, ok, d'accord. Et ceux qui disent « Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec, je ne sais pas pourquoi on les a enlevés. » Et il n'y a jamais de réflexion globale pour dire quel est le système qui a permis à des gens, à des médecins de bonne aloi, etc., d'aller dans le mur comme ça.
Quel est le système? C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire identifier tous ces acteurs, toutes ces relations qui sont parfois extraordinairement complexes, Mathieu Kay.
Oui, et moi j'aimerais bien terminer là-dessus, c'est que je pense qu'il faut aussi retourner le stigmate du faux médicament, parce que dans la littérature que j'ai pu lire et dans mes enquêtes menées dans les pays du Sud, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est toujours l'Inde, la Chine, les pays africains qui sont accusés de mettre en circulation des faux médicaments. Là, dans ce que vient de raconter Christian Lehmann, et je pense que c'est vraiment important de le pointer de cette manière, en fait, le stigmate du faux, il faut aussi le renvoyer à l'ensemble des industries pharmaceutiques qui sont elles-mêmes en permanence en train d'alimenter un système dans lequel, pour mettre des médicaments sur le marché et pour faire du business, on se retrouve à fabriquer du faux.
Merci Mathieu Kay. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Imposture pharmaceutique, médicaments illicites et lutte pour l'accès à la santé, un livre publié aux éditions La Découverte. Merci Christian Lehmann. On trouve la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez réécouter l'émission tant de fois qu'il vous plaira, une page sur laquelle vous pourrez facilement vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier. À la technique aujourd'hui, Philippe Mercher. À la réalisation, Anne Pérez Franchini. Et on retrouve tout de suite Christine Bernard sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.